Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 1er juin, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, c'est la journée la plus chaude de cette période de canicule parce qu'on devrait avoir aujourd'hui 33 degrés avec un humidex à 36, ce qui d'ailleurs va constituer un record. Quand vous regardez, par exemple, l'an dernier, on était dans des températures un peu en dessous. Et pour trouver le record là, d'un 1er juin, il faut remonter à 1892. Ça fait longtemps. Alors donc, aujourd'hui, si je résume, c'est du soleil avec des vents modérés, 33 le maximum, indice UV de 8 ou très élevé. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, avec un minimum de 20. Et on prévoit demain soleil, nuage, encore là assez chaud, 30 degrés, avec cependant faible risque de pluie, d'averse, peut-être même d'orage en après-midi. Mais on parle pas de quantité importante de pluie, là, quelques millimètres seulement, avec un maximum encore là de 30 degrés, humidex 35. Pour la fin de semaine, week-end du Tour de l'Île, c'est du soleil samedi 22 et dimanche, c'est aussi ensoleillé avec un maximum de 20 degrés. Puis quand je regarde les détails de la météo, ce qui est frappant, au-delà de Montréal qu'on vient de décrire, là, mais partout au Québec, on a des températures assez élevées. André Quentin d'Environnement Canada nous le disait un peu hier, mais dans des endroits comme Chibougamau, Fermont, à Gaspé, ça c'est un exemple, la Gaspésie, là, ils ont enregistré 32 degrés Celsius. Et le record, qui remonte à 1992, était de 26 degrés. Alors, c'est sûr qu'il y a une réalité, je pense, d'un réchauffement de la planète, puis des épisodes qui sont quand même documentés, nous montrent qu'il y a des changements, des températures plus extrêmes ou des événements plus violents. Puis je vous donne quelques exemples. On regarde les feux de forêt actuellement. Il y en a 11 au Québec, c'est quand même relativement sous contrôle, même si on a dû évacuer quelques personnes. En Nouvelle-Écosse, c'est autre chose. Il y a 200 maisons qui ont été détruites, plus de 20 000 personnes qui ont dû être évacuées. Le temps sec continue et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse qui a demandé l'aide du fédéral en disant là, ça n'a pas de bon sens parce que la température nous montre qu'il n'y a pas de pluie vraiment à l'horizon et que les kilomètres carrés de forêt qui flambe, ben ça va prendre de l'ampleur aussi. Donc, et ce qui est frappant, c'est de voir aussi autour de Halifax, une trentaine de kilomètres de Halifax, on peut voir, un, des incendies de forêt, et deux, percevoir la fumée et la qualité de l'air qui s'est détériorée. J'ajoute un autre volet à la question environnementale ce matin. Hier, il y a des experts, une quarantaine au total, qui ont publié une étude. Et la conclusion est la suivante. Puis vous avez des gens de tous les pays. C'est dans la revue Nature. 7 des 8 limites planétaires ont déjà été dépassées parce que nous pompons trop de ressources naturelles et que nous avons une consommation élevée de ressources qui sont non durables. Et les 8 limites qui sont identifiées, on retrouve le climat, les écosystèmes intacts, des écosystèmes pour les activités humaines, l'eau potable, le niveau d'azote, le niveau de phosphore et ce qu'on peut résumer comme étant des polluants atmosphériques. Donc, la conclusion, c'est que dans plusieurs secteurs, l'énergie, l'alimentation, l'urbanisme, s'il n'y a pas des changements majeurs qui sont faits, pour ne pas dire radicaux, c'est l'équilibre complet du système terrestre qui est en train de basculer. Puis, je suis pas le genre à vouloir faire peur puis être, disons, un peu angoissé face au changement climatique, mais c'est important de regarder les faits puis cette réalité. Et je sais qu'il y en a qui croient pas à ça du tout, mais je pense qu'on est capable, et on l'a vu dans tous les pays du monde, des changements depuis quelques années dans les températures, dans les phénomènes météo un peu plus extrêmes. Et pour les gens qui se posent la question, mais quel est l'effet, par exemple, concret? Ben, en Californie, l'assureur State Farm, qui est le plus gros assureur dans le domaine de l'habitation, a décidé de ne plus assurer de nouveaux clients en Californie. Ceux qui sont déjà assurés vont rester couverts, mais doivent maintenant faire face à des primes absolument astronomiques. Je vous donne quelques exemples, puis il n'y a pas juste la Californie, vous pouvez ajouter la Floride, vous pouvez ajouter le Kentucky, où il y a eu des inondations, il y a eu également des tornades, et les compagnies disent perdre de l'argent. Et là, c'est rendu que c'est l'État qui doit soutenir les compagnies d'assurance pour être capable d'assurer encore des gens. En Floride, peut-être des auditeurs qui sont des snowbirds, là. En Floride, pour les gens qui ont un condo, par exemple, puis qui veulent s'assurer contre les ouragans puis contre les dommages causés par les vents violents, paraît que, un, c'est à peu près impossible. Puis si quelqu'un veut vous assurer, ben vous allez payer, évidemment, très cher. Parlons de la situation en Ukraine. Il y a une attaque aérienne sur la capitale, Kyiv, qui a fait 3 morts au cours de la nuit, parmi lesquels un enfant. Il y a eu 10 blessés. Les États-Unis ont débloqué également une aide militaire de 300 millions pour, disons, acheter des systèmes de défense. Alors, on tente d'équiper davantage l'Ukraine. Il y a Vladimir Poutine qui a mis en lumière le fait que les pays de l'Ouest se sont pas scandalisés, donc les alliés, de l'attaque aux drones contre Moscou. Et c'est venu comme solidifier son mantra, là, cette espèce de discours qu'il tient, que c'est un conflit non pas avec l'Ukraine, mais avec l'ensemble des alliés des Américains. Et puis, il y a une femme qui a été blessée également lors d'un bombardement dans une ville russe qui est tout près de la frontière avec l'Ukraine. Maintenant, l'aide médicale à mourir. Au-delà des modalités là, dont on a beaucoup parlé dans les derniers jours, il y a cette loi qui a été adoptée. Et le texte du projet de loi, là, d'ailleurs, prévoit des dispositions pour les gens qui veulent à l'avance indiquer leur intention de recourir à l'aide médicale à mourir. On est donc dans l'étude de ce projet de loi. Et ce qu'on découvre finalement, c'est que ces dispositions, pour les gens qui souffrent par exemple, ou qui vont souffrir, je devrais dire, d'Alzheimer ou autre maladie du genre, ben ça va prendre encore 2 ans pour que les gens puissent enregistrer leur volonté. 2 ans, c'est une éternité. Et on a le cas de Sandra de Montigny, bien documenté, jeune femme, qui a vu son père être ravagé et mourir des suites de l'Alzheimer. Et elle dit, moi, je ne vivrai pas ça, puis je n'imposerai pas ça à mes proches. Et hier, vous avez peut-être vu sa réaction, elle est bouleversée. Et je pense qu'elle a raison. La ministre, évidemment, va dire, et je l'ai entendu hier, écoutez, c'est complexe, il faut faire les choses correctement, il faut établir les protocoles avec le ministère, la ministre Sonia Bélanger. Bon, oui, tout ça est vrai, là. Mais ça fait des années qu'on parle de ça. Et je comprends qu'il y a des arrimages complexes avec le code criminel. Mais je ne peux pas croire que durant toutes ces années, on n'est pas capable d'arriver avec un projet de loi qui n'impose pas de la souffrance inutile et des délais pour des gens qui ont fait clairement leur choix et qui veulent que ce choix, soit reconnu par la loi. On va parler avec Mme de Montigny, puis aussi avec la ministre tantôt. Mais sérieusement, là, je ne comprends pas. Parce que c'est pas une discussion là sur un coin de table. C'est discuté. Il y a eu une réflexion, je pense. Et le Québec a eu le mérite de porter collectivement ce projet-là pendant des années sans que ça devienne un débat là acrimonieux, partisan, puéril. Au contraire. Et là, on est rendu à une étape importante parce que Sandra de Montigny, elle n'est pas seule. Et il y a beaucoup de gens qui pensent également à dire, est-ce que je pourrais m'enregistrer et dire, voici, si je me retrouve dans telle situation, c'est pas vrai que je veux continuer comme ça à me dégrader puis à devenir un poids et à rester un poids pour les autres. Et c'est une question personnelle. Personne n'impose l'aide médicale à mourir. C'est un choix. Mais là, on est dans des délais qui sont, ma foi, difficilement justifiables. Merci beaucoup. J'attire votre attention sur un texte publié dans Le Devoir ce matin, Stéphane Baillargeon, concernant les tentatives de suicide chez les adolescents et adolescentes. C'est assez troublant comme constat, qui est un constat, je dirais, planétaire. Alors, d'abord, même si les hommes et les garçons se suicident davantage que les femmes, le taux de suicide baisse quand même chez les gars. Par contre, il augmente de façon substantielle chez les jeunes femmes et les adolescentes. Et la hausse s'avère importante pour les jeunes de 10 à 19 ans. Et c'est un phénomène là, qui dure depuis peut-être une dizaine d'années. Comment expliquer ça? Je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse. Pourquoi les filles, soudainement, seraient plus déprimées, dépressives, au point d'envisager une tentative de suicide? Est-ce qu'il y a une pression exercée encore plus forte en raison des réseaux sociaux? Peut-être. Qu'est-ce qui a changé? Je suis pas un expert, je fais juste vous rapporter le constat. Mais chez les gars, on le savait là, que c'était plus élevé. Ça l'est encore, mais ça baisse. Et chez les filles, ça augmente quand même de beaucoup. Le Canada va devenir le premier pays au monde à exiger des avertissements sur, non pas juste le paquet de cigarettes, mais sur chacune des cigarettes. Ça a été annoncé par le gouvernement Trudeau. Et là, vous allez avoir des messages un peu du même genre qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes. Alors, cette cigarette va vous donner le cancer, du poison dans chaque bouffée. À partir de 2025, on va donc avoir ces messages. Là, tu te dis, pas un peu poussé fort, là. T'sais, déjà, le paquet est dissuasif en principe. Mais là, le ministre Duclos dit, ouais, mais on a un objectif que le nombre, en fait, le pourcentage de fumeurs, qui est actuellement à 12%, que ça passe à 5%. Et on pense que quelqu'un qui fume une cigarette, puis qui tient sa cigarette, puis qui voit le message cancer, puis toutes les maladies pulmonaires possibles, là, ça va finir par peut-être le décourager. Peut-être. Mais disons que pour plusieurs personnes, il y a un certain scepticisme. Vous me direz, ça change quoi en bout de ligne? Pour vous, peut-être pas grand-chose. Mais le Canada veut être le pays qui a le système de mise en garde le plus poussé. Un peu de politique ce matin. D'abord, le ministre Pierre Fitzgibbon a été blanchi pour sa courte visite dans le cadre de la chasse aux faisans. Il y avait une plainte qui avait été logée, donc, à la commissaire à la déontologie. Ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas, pas de faute, mais elle recommande en même temps de mieux encadrer et avoir des balises là pour ce type d'activité impliquant un élu, un ministre et des gens, par exemple, du monde des affaires. Alors, c'est une mise en garde. Elle dit, c'est pas illégal ce que vous avez fait, mais vous prêtez flanc à la critique, puis il y a peut-être un potentiel là. M. Fitzgibbon s'en fout carrément et il a dit, je cite, « Je vais retourner à la chasse l'an prochain et c'est ma vie personnelle, puis de l'autre bord, j'ai ma vie professionnelle. Puis ma vie personnelle, elle ne vous regarde pas. » C'est le discours qu'il tient depuis le début. Pierre Fitzgibbon est dans le monde des affaires depuis des lunes. Il connaît tout le monde. Quand il est venu ici la dernière fois, presque une farce, là. Alors, de penser que son cercle et ou ses cercles d'amis sont composés de gens d'affaires puis de gens avec qui il a participé à un paquet d'activités, ça va de soi. Puis c'est un truc auquel il va chaque année. Sérieusement, il me semble qu'il y a des scandales plus grands que ça. Et la commissaire est pas reconnue pour être, disons, trop molle. Elle n'hésite pas à sortir le crayon puis, disons, à appuyer assez fortement. Mais il n'y a pas enfreint le code de déontologie. Maintenant, si on pense que c'est pas suffisant puis qu'on veut modifier le code, là, c'est une autre discussion. Toujours en politique à Québec, Bernard Drinville commence aujourd'hui avec les autres députés les consultations sur sa grande réforme de l'éducation. Puis je vous le dis, là, vous avez les commerciaux qui nous présentent cette réforme comme étant terrible. Puis partout, là, les mots reviennent, sont insatisfaits, c'est une inquiétude. On devrait retirer ce projet de loi, ça mène nulle part. Pourquoi un tel institut? C'est une pluie de lettres ouvertes, ce qui est un peu normal en éducation. Donc, on verra, en gros, parce que la réforme amène des éléments importants, notamment sur la création de l'institut et aussi de pouvoir accru que se donne le ministre pour savoir ce qui se passe dans les écoles. Puis on n'a qu'à aller voir le rapport de la vérificatrice générale pour découvrir à quel point on ne peut pas prendre de décision quand on n'a pas l'information. La VG, la semaine passée, qui était avec nous, l'a dit. Combien il y a de profs qui partent à la retraite, il y a combien d'élèves, on ne le sait pas au ministère. Puis ça fait des années qu'on ne le sait pas, puis ça fait des années qu'on gère comme ça. Michael Sabia a été confirmé comme grand patron, évidemment, de Hydro-Québec. Et du côté fédéral, la Chambre des communes a décidé de voter 174 contre 150 pour, justement, sortir le rapporteur officiel du gouvernement Trudeau, l'ancien gouverneur général, David Johnston, qui enquête sur l'ingérence chinoise en disant « Vous n'avez plus la confiance de la Chambre des communes. » Malgré ça, M. Johnston a décidé de rester. Il a l'intention de poursuivre son travail. Et tout ça, évidemment, après qu'il eut conclu qu'une enquête publique n'était pas nécessaire, n'était pas requis. Les partis d'opposition pensent que c'est nécessaire. Puis pratiquement tous les jours, vous avez des exemples d'ingérence chinoise. Dernier cas, c'est la désinformation. C'était la une du Globe and Mail hier, de l'ancien chef conservateur Erin O'Toole. Mais M. Trudeau continue de soutenir David Johnston et continue de dire que ses recommandations sont évidemment très bonnes. Et puis, je termine avec cette nouvelle qu'on retrouve. Il y a deux éléments ce matin. Vous connaissez évidemment ce concept qui est l'obsolescence programmée, c'est-à-dire des compagnies qui font des objets qui sont conçus pour ne pas durer très longtemps. Pourquoi? Ben, on veut pas que le vieux grille-pain dure pendant 15 ans, on veut qu'il pète puis qu'il soit pas réparable ou qu'il coûte trop cher à réparer et que le consommateur se tourne vers un produit neuf. Le ministre Simon Jolin-Barrette parle dans une entrevue avec Marie-Ève Fournier dans la presse ce matin qu'il s'en vient avec un projet qui va toucher, paraît-il, l'ensemble des produits. Et je le cite, c'est pas normal quand on achète une laveuse ou une sécheuse qu'après 4 ans, ça brise, que ça ne fonctionne plus et que le consommateur ne puisse pas la faire réparer, qu'il n'y ait pas de pièces disponibles. Alors, protéger les Québécois contre ces pratiques. Alors, comment ils vont faire? Je ne sais pas. Quelles seront les modalités? Ça reste à voir. Mais on voudrait modifier la loi sur la protection des consommateurs. Puis, il y a cette notion du fameux chargeur universel. T'sais, on a tous des produits électroniques avec 23 prises différentes. Je exagère, mais même à Apple, là, t'sais, c'est à différents modèles. Puis, bon. Alors là, on voudrait justement, pour éviter le gaspillage inutile, qu'on ait un chargeur, un modèle pour l'ensemble des téléphones intelligents et des tablettes. Ça pourrait régler un paquet de problèmes. Des fois, quand tu te déplaces, tu dis « OK, ça, c'est mon chargeur, mon téléphone, ça, c'est pour ma tablette. » Est-ce qu'on pourrait simplifier et éviter des dépenses inutiles? C'est le conseil du consommateur du jour.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Aide médicale à mourir. Donc, l'étude du projet de loi est complétée et ce projet de loi sera adopté d'ici la fin de la session parlementaire. Et des gens ont été, pour ne pas dire autre chose, surpris et déçus de voir que les demandes anticipées d'aide médicale à mourir pourraient être acceptées seulement dans 2 ans. C'est le délai maximum. beaucoup de personnes se disent, dans un an, j'aurai l'air de quoi? Puis dans 18 mois, est-ce que je serai encore capable d'exprimer ma volonté? Et pourtant, c'est un débat, c'est une discussion que nous avons au Québec depuis des années. Et la question de base, puis on va la poser avec à la ministre tantôt, mais comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'être plus efficace? Mais d'abord avec nous, celle qui est un peu le visage de ce combat, Sandra de Montigny, qui est mère de famille et qui est atteinte d'une forme précoce et héréditaire de la maladie d'Alzheimer. Sandra de Montigny, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, comment vous avez reçu cette nouvelle-là, vous, hier?
Pour être très honnête, je l'ai reçue de façon très émotive. Je l'attendais pas du tout. J'avais l'impression que le dossier progressait bien. On n'avait pas de nouvelles qu'il y avait des accros ou quelque chose. Et puis, je l'ai appris, c'est ça, comme tout le monde, dans les médias hier. Et puis, ma réaction était ça, de me mettre à pleurer. Puis, elle me disait, bon, non, c'est pas vrai, pas encore un délai.
Le fait qu'il y ait un délai, peut-être pas de 2 ans, mais disons de 18 mois ou d'un an, quel effet vous pensez que ça a sur vous? C'est-à-dire, votre état de santé évolue de quelle façon? Puis à quel moment, on comprend que c'est le plus rapidement possible, mais vous vous dites, là, je peux pas attendre 3 ans ou je peux pas attendre 2 ans là avant de pouvoir faire ma demande anticipée.
C'est sûr que c'est embêtant parce que je peux pas savoir exactement comment ça va évoluer. Par contre, je sais que depuis les dernières années où j'ai eu mon diagnostic, ça progresse. Puis dans mes yeux, moi, ça progresse toujours trop vite. Mais ce que je sais, c'est qu'en ce moment, j'ai besoin d'assistance pour plusieurs choses dans ma vie. Mais j'ai un de mes fils qui est venu habiter avec moi pour m'aider. Je suis encore autonome, là, quand même beaucoup. Mais il y a des sphères qui commencent à être plus atteintes. Et puis, on ne sait jamais comment ça va évoluer, quelle sphère va tomber en premier.
Si vous aviez à formuler votre demande anticipée, vous la feriez avec quels critères? Qu'est-ce que vous voulez exactement?
En fait, moi, ce que je ne veux pas franchir, c'est de commencer à être dépendant de quelqu'un, c'est-à-dire probablement mes enfants, pour mes soins de base dans ma vie. Donc ça veut dire être capable d'aller aux toilettes par moi-même, être capable de manger par moi-même ou avec un peu d'assistance, mais d'être capable de pas avoir besoin de quelqu'un qui me tende une cuillère dans ma bouche là. Ces éléments-là, puis bon, il y en a d'autres, mais pour moi, ça c'est un bon symptôme que la maladie évolue et que mon autonomie dépend de d'autres personnes. Et que tout ce qui va s'en venir de toute façon va juste continuer à être de pire en pire. Et je sais, et plusieurs personnes savent que pire en pire, ça peut aller très, très loin. Et ça, je ne veux même pas prendre la chance de peut-être avoir à me rendre là. Donc, c'est clair que je vais aller au pire un peu plus tôt que trop tard.
Et ça, j'imagine que vous en parlez avec votre médecin. On sait qu'il y a différents stades de la maladie. L'échange que vous avez avec lui, là, c'est très personnel, mais vous devez vous dire, OK, si je me rends là, je veux pas aller plus loin. Là. C'est un peu ce que vous venez de nous dire.
Oui. Exactement. Puis moi, depuis le début, je suis très honnête par rapport à ça. Puis j'ai quand même une bonne réception là, de la part de l'équipe médicale et l'équipe sociale autour. Là. Je parle des sociales éducatrices, psychologues et tout. Donc, il essaie de me supporter dans cette démarche-là, mais en sachant très bien qu'en ce moment, l'étape ultime dont j'ai besoin dépend seulement du politique. Là.
Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage et bonne chance dans votre combat, Madame de Montigny.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Bonne journée à vous. Sandra de Montigny, qui est la figure un peu depuis des années. Elle a reçu ce diagnostic précoce et dans son cas, c'est héréditaire très clairement. Son père avait développé aussi l'Alzheimer et demande depuis donc des années d'avoir le droit de formuler cette demande anticipée d'aide médicale à mourir. Vous l'avez entendu avec des critères pour elle qui sont déjà déterminés. Si je me rends là, j'irai pas plus loin. Sauf que la loi qui sera adoptée à Québec prévoit qu'il y a un délai de 2 ans. C'est un délai maximum, dit-on, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans, ce qui décourage bien des gens. La ministre responsable du dossier est avec nous, Sonia Bélanger. Madame Bélanger, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand.
Bonjour, Madame Bélanger. D'abord, question bête comme ça en partant, pourquoi ça pourrait prendre jusqu'à 2 ans?
Ben, écoutez, d'abord, je veux quand même vous mentionner là que notre projet de loi, c'est un projet de loi dont je suis très fière. On a déposé le tout le 16 février dernier et on arrive donc aujourd'hui avec un projet de loi qui a beaucoup évolué, qui a fait consensus, je dois quand même le mentionner, avec l'ensemble des partis. On a eu des discussions très serrées. On s'est fait accompagner par un comité d'experts pour l'handicap neuromoteur. Vous savez qu'on a changé donc la terminologie. On a tenu un forum. On a rencontré 37 groupes lors des consultations particulières.
Madame Bélanger,
sans mémoire. Ouais.
Je pense que vous n'avez pas compris ma question.
Okay.
Oui, non, mais vous n'avez pas compris ma question. Ma question, c'est pourquoi ça prend peut-être encore 2 ans? Là, le spin est correct, là, mais pourquoi ça en prend encore 2 ans?
Ben, c'est pour ça que je voulais faire cette entrée en matière, M. Arcand, parce que le projet de loi amène beaucoup d'éléments importants. On a du travail à faire sur différentes choses, notamment les maisons de soins palliatifs, la formation des IPS, le constat de décès par les infirmières, l'accompagnement dans les maisons de soins palliatifs. Et on arrive d'ailleurs là avec la demande anticipée. Et pour répondre à votre question, tout ça, je devais le considérer dans tout le travail qu'on a à faire pour l'application de ce projet de loi. On a bien travaillé, on a bien franchi les étapes, on va continuer. Il faut faire les choses correctement, M. Arcand, et j'ai un devoir de prudence. Et si j'avais indiqué, par exemple, entrée en vigueur 6 mois ou 12 mois, et qu'on n'aurait pas été capable de livrer correctement, je vais revenir tantôt, là, quels sont
Non, mais attendez, la question, là.
C'est la première blâmée. Alors, on se met vraiment un horizon de temps, puis c'est pas la cible à atteindre. Si on arrive à tout faire, les discussions qu'on doit faire, notamment avec le fédéral, on va devancer cette étape-là, bien sûr.
Madame Bélanger, cette discussion au Québec, nous l'avons depuis des années. Vous n'étiez pas là comme ministre, mais nous l'avons depuis des années. Il y a des fonctionnaires dans votre machine qui sont sans doute assigné à cette discussion depuis des années. La question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que ça prend autant de temps? C'est pas une idée qui nous est arrivée la semaine passée, à harmoniser, à faire en sorte que ça atterrisse et à permettre à des personnes comme Mme de Montigny de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Il y a quelque chose là qui nous échappe.
Oui. Monsieur Arcand, écoutez, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Madame de Montigny. Je l'ai rencontrée à quelques reprises. Je comprends sa déception. J'ai eu l'occasion de lui parler hier soir et je lui ai dit qu'elle allait travailler avec nous pour qu'on puisse accélérer les différentes choses qu'on doit faire. Elle a accepté. Puis je voudrais rappeler à vos auditeurs que le processus de demande anticipée, là, ça n'existe nulle part au Canada. Ce modèle qu'on est en train de mettre en place n'existe nulle part, M. Arcand.
Le Québec a été pionnier dans l'aide médicale à mourir. Le Québec a piloté le dossier avant le fédéral. Et alors, pourquoi on n'est pas capable d'innover au Québec? On n'est pas capable, depuis des années qu'on a cette discussion, de pouvoir implanter quelque chose? J'ai pas dit de faire ça sur le coin de la table. Je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps.
Mais, M. Arcand, vous le savez, avec le fédéral, on doit s'assurer que ce que nous avons adopté puisse s'harmoniser au code criminel. Alors, et vous comprenez comment fonctionnent les projets de loi. Si on avait commencé la démarche avec le fédéral et pour dire, ben écoutez, on s'en vient là avec la demande anticipée, qu'est-ce que le fédéral nous aurait répondu? Il nous aurait répondu, ben commencez par adopter votre projet de loi, puis après, on s'assoira. Ben on est rendu là, M. Arcand. Fait qu'il faut franchir les étapes.
Madame Bélanger, quand on a adopté la loi sur l'aide médicale à mourir, on n'a pas demandé la permission au fédéral. On l'a fait, puis on a attendu les jugements. Point à la ligne. Ça, c'est le premier constat. Et deuxièmement, vous répondez pas à ma question. Comment se fait-il qu'on a cette discussion au Québec depuis des années et des années et qu'on n'est pas capable d'arriver avec une formule claire pour dire à des personnes, à partir de telle date, vous serez en mesure de demander l'aide médicale à mourir. Je vous dis pas la semaine prochaine, mais de faire cette demande-là anticipée, il y a aucune raison qu'on puisse pas la formuler plus vite que ça.
Ben, monsieur Arcand, de toute évidence, j'ai pas été capable de vous convaincre.
Zéro.
Je suis en train de vous dire qu'on a énormément de travail à faire. Puis je veux quand même mentionner que quand Gaétan Barrette a adopté la loi en 2014-2015, il n'y avait pas, dans le code criminel, d'indication concernant l'aide médicale à mourir. Il y avait un flou par rapport à l'aide médicale à mourir. Et ça n'enlève rien au travail que mes collègues et mes prédécesseurs ont fait. Ils ont pu, donc, inscrire au Québec, développer le modèle d'aide médicale à mourir. Depuis que la loi a été adoptée au Québec, le code criminel s'est modifié. Et le code criminel est aujourd'hui explicite par rapport à la demande anticipée. Il l'interdit. Monsieur Arcand, je vais devoir faire le travail correctement.
Non, mais Mme Bélanger, vous savez, j'ai déjà vu des ministres au Québec faire adopter des projets de loi, puis dans votre gouvernement, en se disant... On mettra une clause non-obstant si jamais on se fait ramasser sur la Charte des droits. C'est rare que je vois un ministre ou une ministre à la remorque comme ça du fédéral pour expliquer des délais. Je suis un peu étonné, mais soyons concrets ce matin. Si Mme de Montigny fait une demande anticipée d'aide médicale à mourir aujourd'hui, est-ce que c'est elle peut être reçue ou c'est un non catégorique?
Ben, en fait, je suis obligée de vous dire que je vais regarder ces éléments-là. Quand on dit la disposition d'ici 24 mois, il y a des étapes qu'on peut faire avant. Et donc, tout le volet d'identifier ses volontés, de faire le travail. Vous savez, le ministère a travaillé sur les formulaires, sur les trajectoires. Je ne veux pas prendre ces mots-là, je sais que vous les aimez pas,
non.
Mais ce travail-là a été fait et on pourrait, en attendant que les discussions se fassent avec le fédéral, rien ne nous empêche de faire le travail individuel avec chaque personne, avec les médecins concernés. Je m'engage à ça. Monsieur Arcand,
c'est parce que mais je veux que ça soit clair. Ouais, Madame Bélanger, je veux que ça soit bien clair là. Si Madame de Montigny, en collaboration avec son équipe médicale, remplit une demande anticipée d'aide médicale à mourir avec des critères très précis dans le respect de la loi qui va être adoptée d'ici la fin de la session, est-ce qu'elle peut le faire et est-ce que ça va être reconnu si dans un an elle ou 18 mois elle n'est plus apte à faire ça? Est-ce qu'elle peut, bref, le faire tout de suite?
Mais regardez, je vous dirais qu'on peut enclencher le processus. Je m'engage à ça, M. Arcand.
Okay.
On peut enclencher le processus. La discussion peut débuter avec le professionnel, donc le médecin ou l'IPS, parce qu'on introduit les IPS. Maintenant, avec cette possibilité-là, le travail peut se faire. La personne peut commencer son cheminement. Pendant ce temps-là, on va se relever les manches puis on va travailler avec le fédéral. Et... Puis oublions pas, M. Arcand, nous sommes les seuls à... mettre en place la demande anticipée. J'ai quand même une responsabilité comme ministre de faire les choses correctement. Et puis, je porte ce fardeau-là sur mes épaules et je veux que, collectivement, on puisse progresser là-dedans.
Okay.
Et Mme de Montigny, je la comprends, M. Arcand. Mm-hmm. On va travailler avec elle. Elle veut s'impliquer avec nous.
Merci, Mme Bélanger. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée, M. Arcand.
Sonia Bélanger, la ministre responsable des aînés et déléguée à la santé. Pour une première fois, il y a une demande d'action collective qui est autorisée par la Cour supérieure contre un centre de services scolaires. Ça se passe en Abitibi, centre de services scolaires de l'Or et des Bois. Et ce sont des événements qui impliquent un professeur, un ex-professeur, Jean-Pierre Collat, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a été prof de français et de water polo, entraîneur de water polo à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or entre 1972 et 93. Il y a donc une victime. Présumé, mais on pense également que ce prof aurait pu faire d'autres victimes. Et il y a tout un contexte qui en dit long sur des méthodes, sur des pratiques qu'on découvre pas mal sur ce qui s'est passé au Québec. C'est Maître Maryse Lapointe, avocate, qui pilote ce dossier. Maître Lapointe, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Peut-être nous résumer un peu les faits là, concernant cet enseignant là, de la polyvalente. Donc, il aurait fait quoi? Une victime, ça, c'est connu?
Ben, en fait, il y a une victime pour laquelle il a été condamné au criminel en 1995 là, par un jury. Et il y a aussi la victime, Mme Jacinthe Boisvert-Saint-Laurent, qui la demanderait sous présent dossier. Elle qui est une victime, là, comme vous l'avez dit, alléguée, étant donné que les éléments n'ont pas été prouvés en cours. De plus, nous, on est en contact avec 6 personnes au total, là. Okay. En lien avec les actions de monsieur.
OK. Alors, ce professeur donc qui est décédé aurait sévi durant cette période-là, et on verra le nombre de victimes. Puis d'ailleurs, vous invitez les gens qui ont eu peut-être affaire à lui d'entrer en contact avec vous. Mais
absolument.
Pourquoi viser le Centre de services scolaires de l'Or et des Bois? Quelle est la responsabilité que vous leur attribuez dans ça?
Oui, bien en fait, c'est que Mme Boisvert-Saint-Laurent, lorsque les événements sont survenus là, dans son cas, elle avait prévenu sa mère qui s'est par la suite adressée à la direction de la polyvalente Le Carrefour et elle se serait fait répondre que le problème était connu de l'école, mais qu'il ne pouvait rien faire. Et évidemment, ça a été assez choquant là, pour la famille à l'époque. Et donc, nous, ce qu'on allègue, c'est que la commission scolaire était au courant de ce problème-là depuis plusieurs années et qu'ils ont rien fait, en fait, pour le régler.
Ça veut dire que, de ce que vous savez, il n'y a jamais eu de sanction disciplinaire. Ce professeur-là n'a pas été suspendu. Il n'y a pas eu de plainte. Il a continué à faire son travail et, en parallèle, probablement agressé des mineurs sans trop se faire emmerder par l'employeur.
Oui, évidemment, j'ai pas une connaissance là, du dossier disciplinaire de Jean-Pierre Collat, donc je voudrais pas nécessairement me prononcer là-dessus. Je sais qu'en 1990, il y avait eu une lettre de M. Claude Daou, qui était secrétaire de la commission scolaire à l'époque, qui avait écrit au ministre Claude Ryan, qui était ministre de l'Éducation, pour demander qu'il y ait une enquête qui soit entamée. Mais cette enquête-là ne semble pas avoir eu de conclusion. Là.
C'est pas un cas unique. Là. En tout cas, on découvre qu'il y a des professeurs ouais. qui avaient des comportements connus qui ont continué à faire ça pendant des années. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a eu, un peu comme dans l'Église catholique, j'allais dire, une certaine tolérance ou en tout cas une certaine négligence sur ces questions-là.
Bien, c'est ce qu'on peut voir avec ce dossier, puis je pense qu'il y a d'autres situations dans d'autres régions du Québec là, où il y a des analogies à faire. Là.
OK. Et les gens qui voudraient se joindre à ce recours collectif, cette action collective, procèdent de quelle façon?
En fait, ils nous contactent au bureau La Pointe Légale. Ils peuvent nous appeler au 514-688-9169 ou aller sur notre site internet lapointelégale.ca. Le processus est gratuit et confidentiel. Puis, dans le fond, là, nous, on va prendre leurs informations, regarder la situation avec eux. D'ailleurs, si jamais les gens ont des doutes, même à savoir s'ils correspondent là, à la définition d'une victime d'agression sexuelle, ils peuvent absolument nous contacter, puis on va regarder ça avec eux. Parfois, les gens ont une certaine incertitude à savoir là, si est-ce qu'il y a eu consentement ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné la situation de torté de l'enseignant à l'époque, là, il n'y a aucun consentement qui était valide là, en droit.
Merci, Maître Lapointe. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Maître Maryse Lapointe, donc, qui pilote cette demande d'action collective, donc qui a été autorisée par la Cour supérieure.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler de ces fameux objets, ces produits électroniques qu'on achète. Et on a tous constaté l'obsolescence programmée, c'est-à-dire des produits qui sont faits pour durer pas trop longtemps, qui coûte souvent très cher à réparer. Il y a un projet de loi qui va être déposé aujourd'hui par le ministre Simon Jolin-Barrette, qui apporte des modifications à la loi sur la protection des consommateurs pour s'attaquer à ce programme-là. Je vais en parler avec Martin Masse, qui est expert conseil en réparation, ayant œuvré, lui, sur un projet de loi qui était, je pense qu'il remonte à 2019. Monsieur Masse, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Peut-être nous faire un petit exposé rapide là sur l'obsolescence qu'on retrouve dans plusieurs produits, là, que ce soit des produits électroniques. Ah, on a perdu la communication malheureusement. Bon, alors on va essayer de rétablir le contact avec lui, mais ça fait longtemps qu'on parle de ça et on a tous été confrontés à cette réalité. Là, t'achètes un appareil, tu te dis, va durer combien de temps? 3 ans, 4 ans? Tu fais évaluer les réparations et on te répond que ben finalement, ça coûte peut-être moins cher d'en acheter un neuf. Et c'est un cycle comme ça qui est infernal. Et de plus en plus de voix se font entendre dans le monde justement pour forcer les manufacturiers à offrir des produits de qualité. Je pense qu'on a pu rétablir le contact avec M. Mas. Donc, M. Mas, je vous disais, pourriez-vous nous faire peut-être un petit exposé là, de l'obsolescence? Qu'est-ce que ça veut dire clairement?
Oui, certainement. Premièrement, désolé pour la petite interruption, un petit problème de communication. Donc, écoutez, il y a deux volets dans tout ça. On a l'obsolescence programmée et on a le droit à la réparation. Et puis là, on a vraiment couvert dans le projet de loi présentement. J'ai pas lu le nouveau projet de loi, mais là, on parle d'obsolescence programmée. Il y a du sensationnalisme dans l'obsolescence programmée. On parle de quelque chose qui serait intentionnellement construit pour briser après un certain temps. Honnêtement, je crois que que ces cas-là sont très rares. Donc, c'est sûr que de dépenser beaucoup d'énergie, de ressources sur ce volet-là du projet de loi m'inquiète un peu. Cependant, dans ça, il y a évidemment tout ce qui a trait à la réparation. Donc, l'accessibilité à la réparation, la disponibilité des pièces, la formation des techniciens, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, que le projet de loi devrait s'attarder. Parce que des cas d'obsolescence programmée, il y en a aux 5 à 10 ans, par exemple, et puis de bâtir un projet de loi, de mettre l'énergie sur cette volet-là, selon moi, c'est peut-être inutile.
Mais ce que je comprends, vous dites, on pense pas que les entreprises font exprès, mais les entreprises peuvent faire des produits qui coûtent moins cher. Mais l'important pour vous, c'est que ces entreprises-là rendent accessibles les pièces, par exemple, pour réparer les appareils.
Exactement. En d'autres mots, qu'on puisse développer un écosystème de réparation. Donc, que les entreprises soient dans l'obligation de fournir des pièces un certain temps. Et encore là, tout dépendamment de la valeur du produit. Mais justement, cette accessibilité aux pièces, que le gouvernement puisse peut-être subventionner, par exemple, la formation au niveau des réparateurs, de rendre la disponibilité de pièces usagées aussi. Là, présentement, ce qui arrive, c'est que tout ce qui est recyclé, tous les produits recyclent les électroniques et les servent plus à rien, comme on connaît bien. Ce programme-là de Recycle Québec est géré par l'ARP, qui est un conglomérat, si on veut, de grandes entreprises comme Sony, Microsoft et compagnie. Alors, les produits, présentement, ils sont recyclés pour les métaux, mais c'est toujours pas mieux pour l'environnement et ça donne pas d'accessibilité aux pièces, justement, pour être capable de réutiliser et réparer au lieu de simplement recycler. Recycler, c'est le dernier stade là, de cette chaîne de valeur-là. Donc, il faut vraiment là, travailler au moment où on peut commencer à réparer nos choses.
C'est intéressant ce que vous dites. C'est comme si on passait l'étape de la réparation. On achète, on consomme, puis quand on est tanné ou ça brise, on pense même pas faire réparer, on recycle.
C'est le réflexe qu'on a présentement. Et puis, c'est de la façon que le système est instauré présentement avec Recycle Québec et l'ARP. Je pense que les grands des entreprises électroniques n'ont pas nécessairement avantage à ce que les produits se retrouvent sur le marché de l'usager. Évidemment, ça l'empêche de vendre un nouveau bien de consommation. Donc, ça serait tout à notre avantage de revoir ça, qu'il y ait plus de transparence au niveau de Recycle Mes électroniques et qu'on puisse avoir accès aux pièces. Parce que souvent, là, je reçois le commentaire, je veux réparer ma laveuse, mais ça me coûte 400$ changer la pièce. Mais la pièce, c'est pas une pièce, c'est une grande partie de composante qui est pas disponible. Mais si on revient à la base, les pièces qui sont sur cette composante-là valent souvent 2, 3, 4, 5, 6 $. Si on est capable de redévelopper ce côté-là, justement, de réparer à la base et de pas avoir à changer la pièce au complet, là, ça va commencer à être rentable de faire réparer des laveuses sécheuses pour 200 $ ou des télévisions pour, tout dépendant, là, peut-être 75, 100 $. Encore là, il faudrait qu'il y ait une assistance peut-être du gouvernement, soit des subventions à des OBNL qui réparent. Il y a plusieurs possibilités, mais il faut vraiment s'attaquer à la réparation, à la réutilisation avant de parler d'obsolescence programmée parce que c'est l'obsolescence programmée, c'est pratiquement criminel. Et puis de prouver ça, honnêtement, c'est de lancer une pierre à l'eau puis de peut-être pas avoir de retour là-dessus. Là.
Parfait, très éclairant. Merci, M. Mas. Martin Mas est un expert conseil donc dans le domaine des objets électroniques. On verra le détail du projet de loi du ministre Simon-Jolin Barrette aujourd'hui.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, on sait que dans le monde vétérinaire, comme dans bien des secteurs de l'activité, on manque de main-d'œuvre. Et ce matin, on va vous présenter l'histoire de Rachel Tremblay, qui tente de devenir vétérinaire, médecin vétérinaire au Québec, et qui a un long processus qui lui a coûté bien cher, mais qui ne donne pas de résultats. D'abord, je vais vous dire qu'elle est agronome consultante en nutrition animale et elle a une maîtrise aussi en sciences animales. Madame Tremblay, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Peut-être nous dire d'abord un peu le parcours en termes d'études que vous avez effectué et finalement, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir aller vous inscrire à la faculté de médecine vétérinaire?
J'ai un parcours qui est un peu atypique. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en agronomie. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en sciences animales. J'ai étudié en épigénétique. Je suis allée travailler quelques années là comme consultante en nutrition animale sur le terrain. Puis, j'ai décidé de retourner aux études en médecine vétérinaire là à 30 ans parce que pour moi, c'est vraiment une vocation pour moi, cette branche-là. Et puis, après plusieurs demandes refusées, en fait, à l'Université de Montréal. J'ai poussé un petit peu plus loin, puis ils m'ont conseillé d'aller faire des études hors Québec là durant un an pour pouvoir transférer en deuxième année par la suite, passer le filtre du registraire de l'Université de Montréal, puis d'être évalué par un comité à la Faculté de médecine vétérinaire, mais présentement, ça ne fonctionne pas. Mon dossier est encore toujours bloqué au registraire, puis je réussis pas à le faire évaluer par un comité à la Faculté.
OK. Première question, pourquoi votre demande a été refusée la première fois?
En fait, là, c'est que comme j'ai un dossier qui est atypique, là, il se fie en fait sur mes études que j'ai faites il y a plus de 10 ans, donc dans mon baccalauréat en agronomie. Puis les résultats que j'ai obtenus à ce moment-là ne font pas le poids, ils ne cadrent pas dans le standard en fait là d'un étudiant fraîchement gradué du cégep ou qui a fait un an ou deux dans un programme X pour rentrer en médecine vétérinaire.
OK. Alors, puis la recommandation qu'on vous a faite, la suggestion d'aller étudier à l'étranger, ça venait de qui?
Ça venait du bureau de l'adjoint à la vice-doyenne à l'époque.
OK. La vice-doyenne, moi, en tout cas, son adjointe vous dit, oui. Allez chercher une formation à l'étranger, puis arrivez-nous avec vos résultats, puis ça va être beaucoup plus facile de vous inscrire ici.
Exactement. C'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis inscrite à Ross University School of Veterinary Medicine, qui est une école privée où il y a environ 300 vétérinaires par année qui graduent, qui vont travailler là, au Canada puis aux États-Unis. Puis j'ai très bien performé. Là, j'ai obtenu une moyenne de 98% dans mes trois sessions à l'étranger là-bas. Puis c'est toujours pas assez là, pour franchir la barre du registraire puis pour que mon dossier soit évalué ici. Là.
OK. Deux choses. Ça vous a coûté combien étudier à l'étranger?
Mais présentement, ça m'a coûté 128 000 $. C'est sûr qu'au Québec, on se rend pas toujours compte de combien ça peut coûter un système scolaire de qualité. Je vais dire ça comme ça. Les frais de scolarité sont payables en US là-bas, puis c'est environ 30 000 $ la session. Donc, ça monte assez rapidement, là.
Mais là, est-ce qu'on a évalué votre dossier ou on veut même pas le regarder?
On veut même pas le regarder.
Expliquez-moi ça un peu.
En fait, là, je suis en communication avec la faculté là, depuis plusieurs années, depuis que j'essaie de rentrer puis de percer. Ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas reçu mon dossier. Donc, mon dossier est bloqué au registraire. Puis, le registraire m'ont vraiment dit là, que c'était à cause de mes résultats cumulés. Ils prennent en compte tous les résultats que j'ai obtenus dans ma carrière académique. Puis, ce qui bloque, c'est vraiment les résultats que j'ai obtenus au baccalauréat en agronomie il y a 10 ans. Il faut savoir que les résultats que j'ai obtenus durant mon bac, ils étaient assez bons pour que je puisse faire une maîtrise. Puis mes résultats à la maîtrise étaient assez bons pour que j'obtienne des bourses d'excellence là, puis que je me fasse offrir de continuer au doctorat par la suite, puis que je me fasse offrir aussi un poste de chargé de cours. Là. C'était pas des résultats qui étaient bas. Là. C'était quand même des beaux résultats. Là.
Mais ce qui est particulier là, c'est que on vous suggère par le biais du bureau de la doyenne. D'aller étudier à l'étranger, d'aller suivre cette formation, vous l'avez fait, vous avez une note impeccable, ce qui représente, vous le dites, 98%, mais moi, ce qui m'achale, c'est qu'on prend même pas le temps de regarder ça. C'est-à-dire que ça bloque dans la machine, là.
Oui, exactement. Puis avant, quand ils m'ont suggéré en fait d'aller faire des études à l'extérieur, ils m'ont dit, tu sais, qu'ils savaient là que leur système de sélection ne fonctionnait pas présentement, puis qu'ils passaient à côté de candidatures comme la mienne, mais qu'ils pouvaient rien faire pour le moment. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont suggéré d'aller faire des études hors Québec.
OK, vous avez cogné à combien de portes depuis les derniers mois?
C'est sûr que j'ai essayé de contacter beaucoup la faculté. J'étais en contact avec le registraire. J'ai demandé des révisions de dossier. Ils m'ont dit qu'ils maintenaient leur décision de pas faire passer mon dossier. Puis là, on est rentré dans une vague médiatique, en fait, depuis hier, là.
Avez-vous l'impression que vous pourriez devenir vétérinaire ailleurs qu'au Québec?
Ben c'est sûr que si je continue ma formation à Rush University, je vais devenir vétérinaire. Je vais pouvoir travailler partout au Canada puis aux États-Unis sans problème, là. Puis c'est sûr que je vais être vétérinaire. Je dis ça, c'est pas sur la table. Je vais atteindre mon but puis je vais la compléter, cette formation-là. C'est juste que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment pouvoir la continuer chez moi en français puis pas avoir à m'endetter davantage pour le faire.
On va suivre vos démarches. Merci beaucoup, Mme Tremblay.
Merci beaucoup.
Au revoir, Rachel Tremblay, est agronome consultante en nutrition animale et titulaire d'une maîtrise en sciences animales. Et elle a été chercher une formation pour être vétérinaire aux États-Unis. On a un manque de vétérinaires. D'abord, quand vous regardez là, l'ensemble des manchettes récentes, des gens qui veulent pas être vétérinaires, qui veulent pas travailler sur des fermes, qui veulent pas ci, qui veulent pas ça. Bon, OK. Puis là, c'est quoi, là? On va lui dire merci, bonsoir, le Québec n'a pas besoin de vous, pas aller ailleurs. On s'attend minimalement à des explications de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal pour voir un peu ce qui va se passer.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.